France Inter.
Club.
Go, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club pour votre dose de musique quotidienne, le meilleur de la scène française. C'est ici, chaque soir au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Ce soir, ça va déchirer du lourd, du métal en direct avec Aldebert alias Aldebert, Zaza Batory, Corentin Charbonnier, Milan Garcin et Stéphane Burier. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
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 Metal Diabolus in Musica, c'est une expo phénoménale actuellement au musée Philharmonie de Paris. Une scénographie impressionnante à la démesure de cette scène métal. Corentin Charbonnier, Milan Garcin, vous en êtes les commissaires. À vos côtés, deux héros héroïnes métal en diable, Zaza Batory du groupe Fury et Stéphane Burier du groupe Loud Blast. Enfin, Aldebert est notre invité, ou devrais-je dire Aldebert, c'est la fâche obscure d'Aldebert qui signe un album, Enfantillage 666, le nombre du diable, un album que vous défendez André au Hellfest Kid le 26 juin prochain, à la veille de la 17e édition du Hellfest. Côté club, ça va ouvrir grand vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Ouverture animale, parce que ça rime avec métal. Éloi, donne-le là sur France Inter. Pas Milan, mais oui, c'est notre version métal ici sur France Inter. Aldebert, Zaza Batory, Stéphane Burier, Corentin Charbonnier et Milan Garcin. Quel casting en direct pour Côté Club, tous et toutes associés à la scène métal à l'occasion d'une exposition XXL et formidable au musée de la musique Philharmonie de Paris. Vous l'avez vu, Aldebert, j'imagine ?
Bien sûr, deux fois.
Deux fois ?
Et ouais,
Pourquoi vous n'avez pas compris la première fois ?
Non, c'est que la première fois, c'était en chantier, c'était presque fini. Et j'ai eu pas mal de frissons, je dois avouer. C'est-à-dire qu'il y a un petit coin guitare héros.
Ah, oh, j'adore.
Avec les guitares de Malmsteen, Satriani, Vai, et Van Halen, bien sûr. Et en fait, le monsieur qui était en train de les accrocher, Elles allaient finir sous verre dans la vitrine, tout ça. Et donc, il y avait la guitare de Van Halen, qui est quand même une guitare mythique, et Excalibur, un petit peu, sur la table. Et le monsieur, en fait, il cherchait son scotch pour réparer un truc, et il pousse la gratte. Comme ça. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu de mon GAFA? Crac. Et la gratte. Moi, je tremblais, c'était beaucoup d'émotions.
Zaza Batory, vous avez vu aussi l'exposition?
Oui, je l'ai vu à l'ouverture.
Pareil, c'est le côté Guitar Hero qui vous a fasciné? Ou les vitraux? Moi, j'avais adoré les vitraux.
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé justement les vitraux qui sont faits par Fortifem, qui est un duo d'illustrateurs incroyables et qui ont fait en plus un hommage à un de mes artistes métal préférés, qui est Chuck Schuldiner, et qui trône en haut du vitrail Death Metal. Donc, il y a un vitrail par, un vitrail par chapelle.
Oui, parce qu'il y a des chapelles dans cette exposition.
Ouais, c'est très très bien fait et c'est vraiment très très beau quand on rentre dans l'expo. La scénographie est superbe.
Ces chapelles, elles correspondent à quoi, Corentin?
En fait, on sait que le métal n'est pas un seul style, mais il en regroupe à peu près, à peu près 200. Il y en a une grosse centaine qui continue de bien exister. Et dedans, on essaie de prendre à peu près les plus fondateurs avec Milan. On essaie de faire une shortlist des 7 chapelles, mais en fait, qui correspond à une dizaine de sous-styles, pour essayer de les aborder le mieux possible, en fait. Parce que sinon, on était perdus.
Vous connaissez tout le monde ici, Aldebert, j'imagine?
Oui.
Vous qui êtes identifié a priori à la scène jeune public avec vos enfantillages depuis 2008, mais avant cette carrière jeune public, Aldebert, vous étiez un héros de la scène métal en 96. On pouvait vous entendre dans ce groupe White avec un Y. Il lève les bras, il s'y retrouve. Vous aviez des cheveux à l'époque, j'imagine, quand même.
J'avais des cheveux
très longs.
Très longs, très longs, bien sûr, ouais.
Ils sont passés où?
Ouais, ils sont à l'intérieur maintenant.
Ah oui, c'est ça, à l'intérieur.
Je peux être bourgué, mais comme ça, et ça se voit pas.
De bons souvenirs de cette période?
Bien sûr. Bien sûr, alors pour mes parents, c'est une période difficile parce que c'est beaucoup de rendez-vous chez la conseillère d'orientation qui ne me propose pas dans son grand classeur bleu un BEP Guitar Hero, ça n'existe pas. Mais ouais, chouette période, bien sûr.
Zaza Batory du groupe Heavy Metal Furies, créé en 2013, au départ un groupe 100% féminin. La formule a évolué depuis, parité absolue, deux hommes, deux femmes, dont vous, Zaza Batory à la batterie. Et le son, c'est ça. Dans le groupe, vous jouez de la batterie, vous n'avez jamais donné de la voix?
J'aime beaucoup faire les chœurs, mais j'ai décidé d'arrêter d'ailleurs.
Pour quelle raison?
Je suis souvent essoufflée à la batterie, et donc je ne chante pas forcément très très bien, et c'est une vraie technique. Il y a des batteuses qui chantent très très bien, comme la batteuse de Brutus par exemple, qui a un groupe incroyable, vraiment très très beau, que je vous conseille tous d'écouter. Mais non, moi j'ai pas assez de technique vocale, je ne chante vraiment pas bien.
Continuez les présentations par les sons. Stéphane Burrier, fondateur, chanteur, guitariste du groupe Loud Blast. Là, c'est plus ancien, 1985, la date de fondation. Vous êtes par ailleurs ingénieur du son, producteur artistique. Et le son de Loud Blast, c'est ça. Quelle voix!
Magnifique, n'est-ce pas?
C'est une technique, j'imagine aussi.
C'est une technique, oui, ça se travaille depuis un certain nombre d'années.
Avec des chanteurs d'opéra, par exemple?
Avec des chanteurs d'opéra, oui, j'ai pris quelques cours avec un chanteur d'opéra à une époque où je cherchais ma colonne d'air, n'est-ce pas?
C'était trop difficile, sinon.
Oui, à force de se faire très mal en chantant qu'avec la gorge.
Qu'avec la gorge, culturelle,
on se fait très mal, donc il faut trouver la technique qui convient. Et j'ai fini par la trouver après quelques années d'efforts.
Et d'errance. On va en parler. Corentin Charbonnier, Milan Garcin, tous deux commissaires de l'exposition. Corentin, vous avez fait une thèse d'anthropologie sur le métal. Milan Garcin, un master de philosophie. Quel lien, tous les deux? Est-ce que vous avez une pratique de métalleux? Corentin, pour vous, oui.
Oui, on est acteur de la scène. Enfin, je pense qu'on s'est tous un peu fait. Après, moi, non, musicalement, non, je rejoins pas mes collègues. Moi, je suis harpiste, donc.
Harpiste.
Aucun lien.
Ah oui, d'accord. Et quel répertoire?
Bah, au départ classique, et puis bah, après quelques prestats pour rendre des services à des copains sur des groupes, quoi.
Et de votre côté?
Eh ben, de mon côté, peu de pratique aussi, mais un petit peu quand même par plaisir. Le ukulélé, ça compte, non?
Non, ouais, ça compte non, pas. Ouais. Non,
faut si il est électrique, on peut jouer du Metallica dessus, ça va?
Bon, ça va.
Ça va.
Votre thèse d'anthropologie en deux mots, c'était quel sujet? Qu'est-ce que doit cette exposition à ce travail que vous avez fait auparavant, Corentin Charbonnier?
Alors, le sujet de la thèse, c'était l'approche anthropologique du festival du Hellfest en tant que lieu de pèlerinage pour les Metalheads. Donc,
j'adore l'intitulé.
Voilà, on voit bien de quoi on parle. On va parler de religieux et de musique métal. Et on l'a gardé, en fait, dans l'expo parce qu'on parle beaucoup de rites, de ritualisation, du rapport au mythique, du rapport au sacré. On a des chapelles, une cathédrale, enfin, voilà.
Donc, vous avez fait une étude du public?
Totalement, oui. Du public du Hellfest et puis du public métal un peu plus en général, parce que c'est un public qui s'est constitué à plus de 50 ans et qui est toujours aussi vivant et vivace et qui se déplace encore sur les festivals.
Donc une exposition au Musée de la Musique Philharmonie de Paris, très riche en costumes de scène, en albums, objets d'art. Vous avez travaillé les liens avec l'histoire de l'art, avec le cinéma d'horreur, bien sûr des instruments. Et en ouverture de l'exposition, il y a la guitare de Tommy Iommi, le guitariste de Black Sabbath. Guitare iconique puisque ce serait sur elle, je ne le savais pas, qu'il invente le métal. Ça veut dire quoi qu'il invente le métal sur cette guitare?
Eh bien, c'est Milan. C'est le premier à avoir vraiment commencé à constituer un son métal avec cette guitare. Tommy Iommi est un ouvrier métallo au départ, qui a un accident à l'usine. Il va se retrouver avec deux phalanges sectionnées, il va se constituer des sortes de prothèses au bout des doigts, et puis il va modifier son instrument pour pouvoir jouer justement avec ces deux prothèses, avec un certain nombre de procédés techniques, et en utilisant un certain nombre aussi d'éléments musicologiques, notamment le triton, ce fameux intervalle de carte augmentée, il va créer un son plus brutal qui s'inspire du film d'horreur, en particulier le film d'horreur Black Sabbath avec Boris Karloff dans le rôle-titre, dont le groupe va s'inspirer évidemment à la fois pour le nom de cette fameuse première chanson de métal que le groupe va créer, et puis évidemment pour le nom du groupe lui-même.
Tout est dit. Et puisqu'on parle des fondamentaux, je voudrais qu'on écoute ceci. Mais à qui appartient cette voix? Je vous pose la question, Stéphane Burier, parce que dans le catalogue de l'exposition, vous consacrez un article au chant guttural, ce que l'on vient d'entendre, avec cette voix, une des premières, celle
de... Paraîtrait que ce serait une des premières, John Entwistle, donc le bassiste des Who.
Vous voyez que les bassistes donnent de la voix, les Abattori?
Ah oui, oui, les bassistes, notre ancienne chanteuse était bassiste d'ailleurs.
Mais oui, apparemment ce serait une des premières voix gutturales enregistrées sur un album.
Moi, je pensais que c'était Metallica qui avait apporté ce type de chant, en fait.
Il y a eu Motorhead aussi avant, hein. Motorhead, avec Lemmy qui a amené aussi ce côté extrêmement acide, très tiraillé dans cette voix. Et on est tous inspirés par Motorhead, en tout cas dans la nouvelle scène extrême. Clairement, il y a eu un avant et un après Motorhead.
Est-ce que cette voix, vous l'aviez aussi développée quand vous faisiez du métal, Aldebert?
Ah, pas du tout. Nous, on était dans un métal très mainstream, quoi, on disait Hard FM à l'époque. Donc on faisait pas
ça mal fait de rire cover. Votre voisin hein.
Oui oui.
Non mais j'aurais bien voulu le voir en spandex.
Et du coup j'étais pas du tout dans le gros, c'est-à-dire dans ces voix-là. J'étais déjà juste choriste. J'étais choriste et guitariste apprenti shredder, c'est-à-dire j'essayais de faire des trucs avec des tappings, des sweepings et des acrobaties.
Ça demande quel type d'enregistrement quand on enregistre ce type de voix et même ce type de son? Je vous pose la question, puisque vous êtes ingénieur du son, il doit y avoir des techniques particulières pour enregistrer le métal.
Juste un bon chanteur, tout simplement, comme dans tous les styles.
Ah, pas plus que ça.
Non, absolument. Comme c'est pas le cas dans certaines musiques, il y a pas vraiment de, on triche pas avec la voix. C'est-à-dire, il faut juste être en forme, ça veut dire bien dormir, pas consommer trop d'alcool, être en pleine possession de ses moyens, et on arrive à chanter comme ça. Comme tout le monde est capable de chanter comme ça.
Et est-ce qu'il y a des studios mythiques pour la scène métal dans lesquels on a produit des albums devenus cultes depuis?
Oui, le Morrison Studio, par exemple, dans lequel j'ai enregistré deux albums, à Tampa, avec des producteurs comme Scott Burns ou Tom Morris, ou Philippe Morris.
Non, Philippe Morris, c'est autre chose. Mais votre lapsus est très révélateur.
Mais, il y a un certain nombre de studios dans les pays du nord de l'Europe aussi. Enfin, il y a quelques noms comme ça qui ressortent à chaque fois. Et c'est vrai que le Morrison Studio a fait la part belle de toute la scène death metal. En fait, toute la scène venait vraiment de Floride. Donc,
Tout à l'heure, je parlais de la thèse d'anthropologie de Corentin. De votre côté, Bilan, vous avez fait une thèse d'histoire de l'art. Quel rapport avec le métal aujourd'hui, et notamment pour cette exposition?
Alors, il y a plusieurs facteurs, évidemment. À la fois, le fait qu'il y a tout un imaginaire qui est lié au métal, dont une partie vient de l'univers de la science-fiction, de l'heroic fantasy, qui a produit tout un tas d'illustrations tournant dans les années 60, 70, et qui a un peu, qui est passé un peu sous les radars des institutions de l'art contemporain. Il y a eu quelques énergumènes qui s'y sont intéressés. Dali, par exemple, qui a fait une collaboration avec Alice Cooper à un moment donné. Mais donc, il y a quand même, toute une part de la production artistique visuelle qui existe. Et puis, d'autre part, il y a aussi tout un tas de références à l'art classique.
À l'origine du monde, par exemple.
L'origine du monde, c'est un bon exemple, ou encore tous les tableaux de Jérôme Bosch, évidemment, qui sont très très importants pour un certain nombre d'artistes. Alors il y a plein d'exemples qui viendraient en tête. Et puis ça va jusqu'à Rodin aussi, où on a Black Sabbath qui utilise pour de faux une sculpture de Rodin, l'Eternal Idol, et qui va donc recréer la sculpture en demandant à des acteurs de poser après qu'ils aient été peints couleur bronze, parce qu'ils n'ont pas obtenu les droits à l'époque de la part des ayants droit de Rodin pour faire cette pochette. Donc on montre toutes ces choses un petit peu dans l'exposition. Alors, on n'a pas de Jérôme Bosch, malheureusement. Le musée du Prado n'est pas d'accord pour prêter son Jérôme Bosch.
Et l'origine du monde, vous l'avez eu?
Et l'origine du monde non plus. Il était déjà pris. Par contre, on a un Rodin, et ça, exactement, c'est pas mal.
Aldebert, version Aldebert, vous sortez un nouvel album pour enfants, mais sous le signe de la scène métal, Enfantillage 666 ou 666, on y trouve les héros du genre, notamment les Brésiliens Igor et Max Cavalera. Max qui signe d'ailleurs un article formidable dans le catalogue sur icônes et rituels. Ce sont eux-mêmes des icônes, les deux frères brésiliens, avec la création de leur groupe Sepultura en 84. Comment vous les avez convaincus de participer à ce disque? Vous les connaissiez?
Pas du tout. Enfin, j'y connaissais parce que j'avais les posters quand j'étais ado dans ma chambre. Et moi, j'ai envoyé des mails à la prod de façon très classique, ces espèces de bouteilles à la mer. Enfin, c'était plutôt du Jéroboam à la mer là, à ce niveau-là, en me disant est-ce que quelqu'un comme Max Cavalera va accepter d'être sur un album d'un petit chanteur français chauve de 50 ans qui fait de la chanson pour les enfants?
Vous allez faire chier.
Rien n'était moins sûr. Et en fait, on a toujours fait ça avec Enfantillage, dans une esthétique plutôt chanson et pop jusque-là.
Ouais, plein de collaborations, en effet. Ouais.
Oui, oui. On a eu des grands écarts. On a eu Didier Wampas, Alizé, Marcel Amon. On a eu des gens de tous les horizons. Et là, on ouvre encore plus le champ des possibles avec cette scène métal, avec quelqu'un comme Serge Tankian de System of a Down.
Énorme. À vos côtés aussi, Stéphane.
Bien sûr, Steph.
Ouais, qui est
toute la scène française et beaucoup de, enfin, pas toute la scène française métal, mais beaucoup de ses représentants. Et du coup, on a eu des réponses. Et on s'est posé la question, on s'est dit, mais comment ça se fait qu'ils acceptent
aussi facilement?
Je crois que c'est parce qu'on, quelque part, on est une espèce d'objet musical non identifié. Et on a ce double défi de parler aux familles, aux enfants et d'être crédible auprès de la communauté métal.
Et ben, on va vérifier ça. Le cartel des cartables.
No more school bullying. Chaque jour de la semaine, accusé au final de n'être que moi-même. Fragile et sans armure, j'ai le cœur battant. Moi qui rase les murs, parcours du combattant. Entre les représailles et les ultimatums,
samouraï, Yakuza de trois ports. Entendez ma prière sous la lune.
Out of my way.
Écoutez la colère sous ma pluie.
Cœur dans un étau, je suis à leur merci. Les parrains du préau en ont décidé ainsi. Il n'y a pas de raison, je suis juste une cible. Dans une drôle de prison aux barreaux invisibles. Quand l'espoir s'envole, sous le poids des menaces, c'est l'enfance qui s'étiole et nos rêves qui s'effacent. Écoutez la colère sous ma plume.
Leave it away.
Entendez ma prière sous la lune.
Out of my way.
Écoutez la colère sous ma plume.
Club.
Côté plus de solo de guitare et moins de blabla.
Club.
Sur France Inter.
Le cartel décartable, extrait de Enfantillage 666 ou 666, nouvel album jeunesse signé Aldebert alias Aldebert. Vous l'aviez déjà entendu, Corentin et Milan ? Ça vous va ?
Absolument, c'est superbe.
C'est superbe, ça marche parfaitement.
Merci les gars.
Vous allez le défendre avec tout le fric qu'ils vous ont donné, franchement. Vous allez le défendre au Hellfest Kid, le 26 juin prochain ?
Oui.
Avec des héros de la scène métal ?
Oh, c'est bien probable. Ouais, ouais.
Il y a un jeune public à initier ?
Oui, je pense.
Un jeune public.
Ouais. C'est le constat que je fais depuis pas mal d'années en fait, parce que ça fait longtemps que ça infuse cette idée d'album métal, et il y avait déjà quelques petits clins d'œil. Il y avait des morceaux un peu punk, un peu skate rock, et on voit bien assez vite que les enfants sont naturellement rock'n'roll, n'hésitent pas à se lever, ils ont envie de se déguiser, ils ont envie de faire les fous, ils sont dans cette énergie et cette authenticité qu'on trouve dans le métal.
Pourquoi vous avez arrêté ce groupe White avec un Y dans les années 90, à la fin des années 90?
Parce que je voulais ressembler à mes idoles, mais le problème c'est que quand on essaie d'imiter, ça ne marche pas. Et je m'en suis rendu compte assez vite. Et on faisait des reprises. Moi, je voulais être quelqu'un d'autre. Je voulais être Steve Vai, un guitare héros. Je voulais être aussi Kirk Hammett. Je voulais être plein de gens, mais je savais pas qui j'étais moi. Et donc, je suis repassé par la case chanson française. Et puis voilà, je me suis construit comme ça.
Stéphane Burrier de Loud Blast. Vous aussi, vous êtes sur cet album?
Oui.
On dit que grand-maman n'a rien d'une mémé. D'ailleurs, son testament paraît qu'elle l'a fumé. C'est la base de l'ancien, personne ne le réfute. Vétérans et doyens sont des jeunes qui débutent. Influenceuse active, elle propose des tutos. Comment rester sportive à 130 ans bientôt ?
Pire est un naufrage, disait le général.
Mais il n'y a pas d'âge pour le heavy metal.
Se faire vieux, c'est pas cool, mais ça fait des souvenirs.
Elle perd un peu la boule, mais garde le sourire.
Elle parle d'autrefois en tremblant de la bouche.
Quand les Metallica portaient encore les couches.
Il n'y a pas d'âge pour le métal, Stéphane Burrier. Vous en êtes la preuve.
A priori, oui. Hein. On a commencé en 1985. Hein. On était gamin, on était un groupe de lycée, Loud Blast. Donc, ça a accompagné toute ma vie, en fait, tout simplement.
Ouais, on peut vieillir véritablement dans cette musique. Vous n'êtes pas le seul groupe, d'ailleurs, à faire cela.
Absolument pas. Mais on fêtera nos 40 ans l'année prochaine, de 40 ans de groupe. Donc, c'est quand même une belle histoire. Et c'est quelque chose qui accompagne aussi mon fils. Enfin, on grandit avec le métal.
Est-ce que la scène a gardé les mêmes valeurs subversives qui l'animaient au départ? Au départ, c'est créé en Angleterre, je crois, puis ça vient des États-Unis à la fin des années 60, début 70. Est-ce que les mêmes valeurs de l'époque sont aujourd'hui aussi vivifiantes, Corentin Charbonnier?
C'est une musique qui a toujours été très ancrée dans la culture locale, dans le rapport aussi à la société. Donc oui, il y a toujours des choses à dénoncer, on le voit. Enfin,
oui, mais dans les années 70, j'imagine qu'on s'opposait à autre chose que ce que l'on peut combattre aujourd'hui. Qu'est-ce qui animait la scène métal quand elle s'est créée en Angleterre dans les années, fin des années 60, début 70?
On a quand même une opposition qui était assez claire contre le milieu industriel. On le retrouve aussi sur les milieux religieux, sur les politiques. Et ça, on le retrouve toujours aujourd'hui. En fait, on a toujours des groupes qui sont très engagés. Aujourd'hui, on nous parle plus d'écologie, peut-être. Mais
oui,
on...
parce qu'au départ, c'était un imaginaire plutôt anti-chrétien qui s'était mis en place.
Ça fait partie des grandes institutions qui planaient un peu sur le monde. Donc, et ça continue aussi. Voilà.
De quoi vous parlez aujourd'hui, Stéphane Burier, par exemple, dans vos textes?
Eh bien, on parle de ce qu'on voit tous les jours en essayant d'imager un petit peu cela, parce que être radicalement sur le terrain, je trouve ça pas très poétique, parce que c'est pas très joli ce qu'on voit. Donc on essaye d'y mettre pas des fleurs, mais plutôt des flammes. Et ça nous permet d'amener nos fans vers un milieu un petit peu plus onirique.
Et du côté de Zaza Batory, du côté du groupe Furize, de quoi il est question dans les textes?
Dans les textes, c'est plutôt des métaphores, en fait. Mais de plus en plus, plus on a avancé avec le groupe, plus ça parlait justement aussi d'écologie, puisque c'est quelque chose aussi qui nous tenait à cœur dans le groupe.
En tout cas, si les valeurs ont évolué, la scène métal a gardé quelque chose du rituel, du cérémonial, quels seraient selon vous les concerts qui ont véritablement marqué ce répertoire dans leur débordement, les outrances, le son, les costumes? Est-ce qu'il y a des concerts comme ça qui vous viennent en tête les uns les autres?
Kiss.
Kiss? Quel concert? Ou n'importe lequel?
Ah bah moi, de toute façon, Kiss, ça a été mon premier balbutiement, en fait. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu Kiss dans une émission qui s'appelait Rock Icons, je crois, un truc comme ça, c'était sur TF1 à l'époque. C'est une émission qui passait assez tard le soir. Je pouvais regarder avec mon père, j'avais 10 ans ou 11 ans, et j'ai vu ce morceau, Love Gun, joué par Kiss, des flammes, des maquillages, c'était un truc que j'avais jamais vu de ma vie. J'ai voulu faire Gene Simon pendant 15 jours dans les couloirs de l'appartement qu'on avait à l'époque. Donc ouais, ça a changé radicalement ma façon d'aborder la musique.
Au moment où vous écoutez ça. Vous aviez quel âge, rappelez-moi, quand vous écoutez ça, Stéphane Burier?
Je devais avoir 10 ans, je pense.
Et ben voilà, le traumatisme à jamais. Et l'on refait plus tard ce qui vous a marqué quand on est jeune.
Oui, ouais, voilà, en fait, j'ai pas voulu être guéri de ce virus. Cette maladie.
Est-ce qu'il y a d'autres concerts qui vous ont marqué, oui, Milan?
Qui m'a marqué par l'histoire. Parce que
oui, par l'histoire,
né,
bien sûr. Marche.
Mais je pense que le concert de Moscou de 1990. Où Scorpions va jouer Wind of Change dans un pays qui est encore l'URSS et dont on a dit que le morceau avait contribué à la chute du mur. Je pense que voilà, il y a eu un fort impact politique, je pense, de ce morceau, évidemment de ce concert qui faisait arriver cette musique dans le bloc de l'Est, oui.
Dans l'exposition, vous avez recréé tous les deux l'ambiance d'un concert. C'est une expérience immersive, c'est vraiment fabuleux. Et ce qu'on voit est hallucinant, parce que moi qui n'y suis jamais allé, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable chorégraphie, en fait, qui se met en place dans le public.
Ça fait partie des rituels des concerts de métal, c'est que c'est une musique qui se vit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une musique où les gens viennent encore beaucoup au concert, et c'est une musique qui se partage. Donc effectivement, on a des danses potentiellement perçues comme très primitives, on va dire. C'est très intéressant à comparer par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans des sociétés ailleurs, on va dire, ancestrales.
Vous avez tous vérifié ça lors de vos concerts pour les Furize?
Les pogo?
C'est pas la même chose, les pogos.
Ouais, enfin, nous, ce qu'on fait comme métal en général, c'est du métal plus assez mélodique, on va dire.
On va l'entendre tout à l'heure.
Il voilà, y a rarement des circle pits, même si ça peut arriver. Mais voilà,
C'est vrai, ce que disait Corentin, il y a plein de rites, il y a plein de codes, en fait. C'est rigolo, on parle de stage diving, c'est-à-dire qu'on va se faire promener comme ça, porté par les gens. On va faire quelque chose qui, moi, me fait penser à l'enfance, évidemment, c'est le circle pit. parce que tout d'un coup le chanteur va...
C'est quoi le circle pit? Alors, on a compris.
Le circle pit, c'est quand on va tourner comme ça ensemble, c'est assez proche du pogo, sauf qu'on va pas se rentrer dedans, on va faire une espèce de ronde. C'est en ça que je trouve qu'il y a un rapport à l'enfance, c'est une espèce de ronde d'adulte en fait, où tout le monde va courir et c'est assez étonnant. Il y a aussi le Wall of Death qui est très dessin animé en fait, on va séparer la foule en deux parties. Alors des fois c'est 40 000 de chaque côté, c'est énorme hein. Et le chanteur va faire go et tout le monde va partir et on va se rentrer dedans en toute bienveillance, parce que quand on tombe, si on trébuche, on est tout de suite relevé.
Il y a toujours quelqu'un qui vous relève.
Personne ne se fait mal, personne finit en sang, c'est très bon enfant en fait finalement.
Stéphane ?
Oui, moi la première fois que j'ai vu ça, c'était en Belgique, les premières fois que je suis allé voir des concerts un peu extrêmes comme ça. On appelait ça des stage invasion, c'est-à-dire que le public envahissait la scène littéralement. Et c'était une première fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là,
quand dans le hardcore, ils font beaucoup ça. Ouais,
et dans le death metal, voilà, enfin tous les groupes qui arrivaient à cette époque-là, on commençait à voir ces danses entre guillemets qui arrivaient et qui dans lesquelles on se sentait très bien.
On va faire une pause dans cette programmation métal, mais on n'oublie pas la dimension mélodique avec Eden Beach Club, nouvel album signé Laurent Barden et Tigre d'eau douce, qui seront nos invités live du 9 mai prochain dans Côté Club. Pour l'heure, leur invité, c'est Jeanne Haddad, pour le meilleur.
Je...
France Inter, c'est relax.
Wow!
Club.
Yeah!
Laurent Goumard.
J'ai jamais entendu ce jingle de cette façon-là avec ces cris. Merci Stéphane Le Guenec.
C'est bien.
Retour métal avec nos invités Diabolus in Musica. C'est le titre de l'exposition au Musée de la Musique Philharmonie de Paris. Philharmonie de Paris, si je dis bien les mots comme ils viennent. Un titre multi-référencé puisqu'il vient du Moyen-Âge. Corentin Charbonnier, Milan... Qui va.
Je laisse y aller là-dessus.
Ah, c'est un terme musical très précis.
Oui, c'est un terme musical très précis où les compositeurs du Moyen-Âge trouvaient cet intervalle de quarte augmentée dissonant. Et un peu comme quand on dit le diable est dans les détails, ils disaient le diable est dans la musique. Donc, oui, diabolo, c'est une musique.
Ça crée une attente, ça crée une tension dans la musique.
Et qui a été utilisé tout au long de l'histoire de la musique. Hein. On l'entend chez dans Faust, par exemple. Quand Méphistophélès arrive, bah, y a du triton partout. Donc, ce n'est pas une invention du métal, mais évidemment, avec un intervalle qui s'appelle Diabolus in Musica.
Et ça faisait une jolie petite référence à Slayer en même temps.
Oui, c'est un groupe américain avec l'album de 1998, Diabolus in Musica. Quand j'ai préparé l'émission, je vous ai demandé à chacun un titre marquant dans votre rapport au métal. On commence par vous, Zaza Batory. Un titre de 1984 signé Metallica, et manifestement vous le connaissez encore par cœur, Zaza Batory.
Oui, tout à fait.
En quoi ce titre est emblématique pour vous, Metallica ?
Metallica, ça a été vraiment le premier groupe qui a fait que, quand j'ai entendu les premières notes de ce titre, de ce groupe, ça a été... Dans ma tête, c'est ça que je veux écouter. C'est cette énergie, c'est ça. Enfin, j'ai pas, même pas du tout intellectualisé. Ça a été, j'avais 12 ans quand ma sœur a ramené cette cassette à la maison et que je n'ai pas pu m'empêcher de lui piquer dès le lendemain matin, quoi. Voilà.
Et très vite, vous avez commencé à jouer de la musique, à jouer de la batterie dans cette dans ce type de formation.
Absolument pas. En fait, je viens de la musique classique, donc je suis oboïste à la base. Et je faisais des percussions classiques également au conservatoire. À cette époque-là, j'avais 12 ans. Et en fait, je n'ai commencé à jouer du métal qu'à 32 ans.
Vous n'êtes pas autorisé auparavant ?
Non, jamais. J'ai toujours aimé le métal depuis toujours, mais j'ai jamais osé faire de métal avant mes 32 ans.
Ouais. Il a fallu passer à l'acte.
Voilà.
Corentin Charbonnier, Milan Garcin, avec l'exposition, il y a un catalogue et un double vinyle avec des inédits, des raretés. Je vous ai demandé un titre, un seul, et vous avez choisi ceci. Je vois une lueur de respect dans les yeux de Stéphane Burrier, d'Aldebert. Qui est-ce qu'on entend ? Milan ?
On entend du Behemoth, qui est l'un des fleurons de la scène Blackadeth Death Metal polonaise et qui joue demain soir à la Philharmonie.
Oui, c'est intéressant, Milan, parce qu'ils ont effectivement tout cet univers visuel qui est très important. Et puis, voilà, on est très content de les accueillir à la Philharmonie avec Regarde les hommes tombés en première partie. Ça va, je pense.
C'est la première grosse soirée métal à la Philharmonie. Ils n'ont jamais fait un gros concert de métal extrême, donc là on va.
Ah bah non, ça ils n'ont jamais fait, ça, je peux imaginer. Et d'un point de vue visuel, ça donne quoi alors ? Vous dites qu'il y a une dimension visuelle très importante.
Il y a tout un univers autour de l'occultisme, du rapport religieux évidemment, puisque tout leur imaginaire est axé notamment en faux par rapport au christianisme, très présent en Pologne évidemment. Donc voilà, ça donne des images très noires avec des images quasiment rituelles, hein, on pourrait parler
oui,
de ça.
Oui, puis un travail de l'image qui est assez fort dans les clips, puis une reconnaissance qui a surtout explosé il y a une dizaine d'années avec la sortie de l'album, qui est qu'à 9 ans maintenant, c'est sataniste.
Tout à l'heure, c'était Kiss pour vous donc, Stéphane Burrier. Tout de suite, c'est AC/DC, c'est pour Aldebert.
Oh,
C'est très étrange parce que moi aussi j'ai écouté ça et pourtant je suis toujours resté fan de Françoise Hardy. Et pour vous,
ah mais là n'empêche pas l'autre.
C'est bien. Ah ouais. Vous avez quel âge quand vous écoutez ça? Parce que manifestement pour Zaza Batory c'est 11-12 ans, pareil du côté de Stéphane Burrier. Et vous?
Là je dois avoir, ça doit être juste avant l'entrée au collège. Ouais, on raccompagne dans la R9 familiale mon copain et son grand frère. Et son grand frère fait tomber une cassette d'AC/DC sans sa boîte. Et je la mets dans le Walkman.
Et là ?
Elle supplante une compile énergie que j'avais reçue à ma deuxième communion. Et je mets ça. Et là, c'est comme dans un clip de Tenacious D, il y a le diable qui sort de la roue et tout ça. Vous voyez ? Et non, mais c'est vrai.
Qui conduisait ? Quelqu'un qui a dû être tétanisé ?
Mon père avec des cordes. Mais c'était génial parce que tout d'un coup, c'est comme on disait tout à l'heure, en fait, on rentre dans une espèce de théâtre qui est quelque chose de nouveau, qui est quelque chose de très mystérieux avec des signes, avec des codes. Et quand on est gamin, on adore ça. C'est comme une pochette de Maiden. C'est une espèce de théâtre de l'apocalypse comme ça. Et ce qui est super, ce qui fait la force de cette musique-là, c'est que ça vous décolle de la vie normale, du réel. Et ça se fait du bien, on en a tous besoin, à n'importe quel âge.
Vous portiez des shorts à l'époque ?
Non, oui, l'été pour Sang Du Siung.
Oui, mais ça, l'été, ouais. Tout le monde en parle. Ça ne compte pas.
Mais pas sur scène, non.
On quitte la musique un instant parce que je voudrais qu'on parle de Hans Rudiger, un héros de cette exposition. C'est le plasticien suisse à qui l'on doit bien sûr la créature de Alien et qui a participé à la signature visuelle de plein de groupes. Un pied de micro aussi.
Oui, le pied de micro de Jonathan Davis du groupe Korn, qui est l'un des artistes qui a demandé à Giger de travailler pour lui, pour constituer un univers visuel. C'est pas le seul, il y a certains groupes aussi qui sont allés chercher des œuvres préexistantes de Giger, notamment Satan One qui a été utilisé pour l'album de Celtic Frost. Voilà, donc il y a
Megatherion.
Tommy Gatterian, ouais. Merci Steph. Donc voilà, c'est une figure très très importante effectivement de cet imaginaire.
Il y a plein de pochettes absolument iconiques dans l'exposition. Il y en a certaines qui vous ont marqué ou auxquelles vous pensez immédiatement. Oui, Zaza Batory.
Oui, il y a déjà l'illustration. Moi, ça m'a marqué énormément de voir ça. La pochette de Sepultura, Beneath the Remains, qui est une pochette que j'ai toujours trouvée magnifique. C'est vrai que nous, quand on achetait des CD dans les années 90, on passait un temps fou à regarder les pochettes, à lire les paroles, enfin juste à écouter la musique et à voir ce côté visuel. Et c'est vrai que de le voir en vrai à l'expo, ça m'a fait un truc en fait. J'avoue, c'était un petit moment.
La pochette de Judas Priest aussi, Screaming for Vengeance, dans son entièreté. C'est-à-dire que quand on a eu le vinyle à l'époque, il y a la pochette, mais en fait l'œuvre c'est le devant et le derrière de la pochette.
Exactement.
Et d'un coup, je me suis dit, ah oui, mais en fait, je l'avais jamais vu comme ça. Et là, en salle, l'expo amène énormément de nouvelles perspectives sur des choses qu'on croit connaître, mais en fait, qu'on ne connaît pas du tout.
Zaza Batory, vous êtes la batteuse de Furies. Zaza Batory, un pseudo qui cache une attachée de presse. Elisabeth Lavarenne, celle de François N. Atlas Montaigne, Anna Calvi, Franz Ferdinand, Malik Judy, avant qu'il ne change de label. Ce groupe, à la base, était 100% féminin, créé en 2013, donc il y a 11 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comment s'était perçue à l'époque cette formation 100% féminine, dans un milieu que l'on dit très masculin ?
Très très bien. Justement, en tant que femme, quand on a monté ce groupe, on avait beaucoup de gens qui s'intéressaient justement, vu la rareté en fait des musiciennes dans le métal. C'est vrai que les gens. Alors après, il y a eu ce côté un petit peu plus, justement, les gens se sont peut-être un peu plus intéressés au fait qu'on soit des femmes que au fait qu'on fasse de la musique, on va dire.
Bon, c'est le prix payé au départ. Voilà. Mais l'exotisme.
Mais
un peu.
Ça nous a servi au début. Et puis, mais très vite, on est devenu un groupe mixte. Hein. Ça a pas duré longtemps. Ce côté juste féminin.
On va écouter votre dernier single, Stars of Burning Land.
hearts to these burning lights.
Stars of Burning Land, signé Furies avec Zaza Batory à la batterie et qui chante, la voix est phénoménale.
Cheyenne Janas, incroyable chanteuse, semi-finaliste de The Voice en 2020. C'est une jeune chanteuse vraiment folle, incroyablement douée.
Vous validez, Corentin, valide, Milan, totalement. Stéphane, oui, tout le monde.
Top.
Tout le monde s'est retournant, comme dans la nouvelle voix. Sur le plan économique, comment elle se porte, cette scène métal? Je vous pose la question parce que j'ai toujours l'impression que c'est assez fragile. Mais peut-être me trompe-je. Stéphane, curieux?
Oui, enfin, elle se porte plutôt pas mal. J'ai l'impression, on a toujours l'impression que c'est une scène qui est en péril, mais au bout du compte, s'il était si en péril que ça...
Beaucoup d'endroits où l'on peut se produire, notamment en France. Dans le monde entier, ça c'est certain.
En France, on a la chance d'avoir un réseau de salles très très développé et qui accueille beaucoup de tournées et de concerts. Ce qui n'est pas toujours le cas à l'étranger. On se plaint toujours de notre pays, mais en l'occurrence, quand on va tourner à l'étranger, on se rend bien compte qu'on est quand même très bien chez nous.
On va se quitter avec un peu de douceur et de grâce. C'est le titre que vous avez choisi dans la playlist France Inter Aldebert, signé Alain Chamfort. Un mot sur ce choix qui va calmer le jeu, je vous le garantis.
Alors, je sais que Stéphane aime beaucoup Alain Chamfort.
Absolument.
Et donc j'ai vu dans cette proposition de playlist, il y avait Alain Chamfort et je le connais parce qu'on était ensemble à la commission jeune public de la SACEM. C'est-à-dire qu'on faisait pas la pluie et le beau temps, mais en fait on participait au choix des subventions pour les spectacles jeunes publics et j'ai rencontré ce monsieur que j'ai trouvé très drôle et très classe et gracieux aussi dans son travail.
Et Stéphane Buriez?
J'ai toujours adoré Alain Chamfort, donc je suis toujours son... Je me suis racheté un petit 45 tours il y a peu de temps d'ailleurs, je suis tombé dans une bourse au
de
disque.
De quelle période? La période des années 70?
Non, le c'était... Je ne sais même plus, j'en ai tellement.
De Alain Chamfort?
Oui, bien sûr.
Une idole d'Alain Chamfort et moi-même de François Hardy dans cette émission. Tout de suite, La Grâce sur France Inter.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas... Ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de crasse, aurais-je su toucher la grâce? Ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une vieille carcasse, aurais-je su toucher la grâce? Aurais-je su toucher les gens? ceux qui m'ont touché. Aurais-je sans l'avoir cherché, parler de en parlant de moi. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment. Ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire. Des masses tabassées par la vie qui tabasse. Aurais-je su fondre la glace, trouver une voie dans les congères jusqu'au cœur de mes congénères, avant que je tombe en disgrâce. Aurais-je effleuré cette grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix chercher, parler de moi, parlant de moi. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, trouver la part du mal.
État de grâce pour ce direct sur France Inter. Côté club, on ferme. Merci Aldebert.
Merci à vous.
L'album, c'est Enfantillage 666 et vous serez en concert le 25 mai à Chambéry, le 31 à Vauréal, 1er juin Béthune, 2 juin Damary-les-Lys, le 15 La Ferté-sur-Jouarre, le 6 le Hellfest Kid à Clisson. Plein de festivals cet été, 250 dates cette année, vous n'avez plus de famille, et 4 Olympias en avril 2025. Merci Corentin Charbonnier et Milan Garcia. Merci à vous deux.
Merci.
L'exposition Metal Diabolus in Musica est actuellement au Musée de la Musique Philharmonie de Paris jusqu'au 29 septembre. Il y a un catalogue d'exposition parfait. Il est disponible chez Grund. Et bien sûr, le double vinyle bourré d'inédits et de raretés apparu chez Very Records. Merci Zaza Batory.
Merci Laurent.
Prochain album, c'est pour 2025. En attendant, il y a ce nouveau single, Stars of Burning Lands, dont le clip a été tourné ici, au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.
Oui.
Vive le service public. Vous serez sur scène le 16 mai, invité avec Furiz aux Étoiles à Paris, et le 24 août au Furious Fest de Saint-Flour. C'est là où je suis né. Après le journal, vous retrouverez à nouveau Affaires Sensibles. Ce soir, la chute de l'opération Bacane. Et bien voilà, côté club, on va fermer dans quelques instants. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain...
Hey, John et Jen, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides.
Johnny Jane sera notre invité demain avec le duo montréalais BB Club en live, mais je ne vous ai pas oublié Stéphane Burrier, le dernier album de Loud Blast.
Mais non.
C'est Sublime Démentia, hein. Avec là aussi des concerts vendredi à Aix-en-Provence, le 25 mai au festival Réanimator à Saint-Nolf. Voilà, côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. On se retrouve à demain.
C'est génial.
Oui.
Côté
génialissimement génial, j'ai entendu ça.
Club.
Bye.